Les aventures de Tom Sawyer par Mark Twain. Huitième cassette, première face. Page 196. Chapitre 27, le numéro 2. Les incidents de la journée troublèrent le sommeil de Tom. Il eut des cauchemars. Quatre fois, il rêva qu'il mettait la main sur le fabuleux trésor, et quatre fois, le trésor lui fondit dans les doigts. Sa déception était telle que chaque fois, il se réveillait. Le lendemain matin, alors que, les yeux grands ouverts, il se remémorait les événements de la veille, il eut la curieuse impression que tout cela s'était passé dans un autre monde il y avait longtemps, que toute cette aventure pouvait bien n'être qu'un rêve. Il y avait un argument très fort en faveur de cette thèse. Cette invraisemblable quantité de pièces de monnaie lui paraissait suspecte. Jusque-là, Tom n'avait jamais vu plus de 50 dollars à la fois. 50 dollars de l'époque, ça fait à peu près 5000 francs de maintenant. Comme beaucoup d'enfants de son âge, il se figurait que les allusions qu'il entendait faire à des centaines ou à des milliers de dollars n'étaient que des façons de parler, qu'un individu qui possédait 100 dollars, 10 000 francs maintenant, à plus forte raison plusieurs centaines de dollars, cela n'existait pas. Pour lui, un trésor caché consistait en une poignée de vrais dimes. Une dime, c'est un dixième de dollar, ça vaudrait à peu près 10 francs maintenant, et un boisseau de choses indéterminées, mirobolantes, insaisissables, qu'on appelait des dollars. Cependant, à force de réfléchir, il repassait dans son esprit les détails de son aventure. Après tout, cela pouvait bien ne pas être un rêve. Il fallait tirer cela au clair. Il se leva, déjeuna à la hâte et se mit en devoir de retrouver Huck. Huck était assis sur le rebord d'un bateau plat. Il se balançait nonchalamment, les pieds dans l'eau, et paraissait de fort méchante humeur. Tom résolut de ne pas aborder la question le premier. Si Huck n'en parlait pas, ce serait la preuve que lui, Tom, avait rêvé. « Salut, Huck !»«
Bonjour, mon vieux !»
Un silence s'ensuivit. Puis Huck reprit.
« Tom, si nous avions laissé nos maudits outils près de l'arbre mort, à l'heure qu'il est, l'argent serait à nous. Quelle poisse tout de même !»«
Alors ce n'est pas un rêve ?» dit Tom. « Quelquefois, je me prends à souhaiter que c'en soit un. »«
Ma parole, Huck !»« Qu'est-ce qui n'est pas un rêve ?» demanda Huck.
« Eh ben, l'histoire d'hier. Pour un peu, je dirais que c'en est un. »«
Oh ben, t'en as de bonnes. Si l'escalier avait été plus solide, tu aurais vu le drôle de rêve que nous aurions fait. »« Ne me parle plus de rêve. J'en ai assez fait pour toute la nuit. J'avais tout le temps à mes trousses ce diable de borgne espagnol. Que le diable l'emporte. »«
Non, qui ne l'emporte pas ?» dit Tom. « Sans quoi, comment trouverions-nous l'argent ?»
« Nous avons eu une chance comme il n'en arrive qu'une fois dans la vie et nous l'avons manquée. Quant à lui, nous ne le retrouverons plus jamais. En tout cas, si je me retrouvais face à face avec lui, je me sentirais pas très fier. »«
Moi non plus, dit Tom, mais tout de même, je voudrais le voir histoire de le pister jusqu'à son numéro 2. »«
Numéro 2, oui, c'est ça. J'y réfléchis, mais je vois pas ce que ça peut être. » Qu'est-ce que tu crois que c'est ?
Aucune idée, Huck. Dis donc, est-ce que ça ne serait pas le numéro d'une maison ?
Peut-être. Non, je crois pas. Ou alors, si c'est ça, ça serait pas dans ce fichu patelin. Il n'y a pas de numéro ici.
C'est vrai, dit Tom. Voyons voir. Ça ne serait pas plutôt un numéro de chambre dans une auberge ?
Ah, ça doit être ça. En ce cas, ça ne sera pas difficile à trouver, il n'y a que deux auberges dans le village.
J'y vais, dit Tom. Toi, Huck, reste ici jusqu'à ce que je revienne. Aussitôt, Tom partit en courant. Il n'avait pas envie d'être vu en public avec Huck. Il resta absent une demi-heure. Dans la première auberge, la mieux fréquentée, la chambre numéro 2 était depuis longtemps occupée par un clerc de notaire qui y habitait encore. La seconde était moins luxueuse. Elle s'appelait la taverne de la tempérance, c'est-à-dire taverne, auberge, bistrot, où on ne sert pas de boissons alcoolisées, ni bière, ni vin, ni whisky, ni choses de ce genre. Et là, la chambre numéro 2 offrait l'attrait d'un mystère. Le jeune fils du patron dit à Tom qu'elle restait presque toujours fermée, qu'il n'avait jamais vu personne y entrer ou en sortir que la nuit. Pourquoi ? Eh bien, il n'en savait rien. Il lui suffisait de se dire que la chambre était hantée et sa curiosité n'allait pas au-delà. La nuit précédente, il y avait vu une lumière. « Voilà ce que j'ai trouvé, Huck, » dit Tom. « Je crois que nous sommes sur la bonne voie. »«
Ça m'en a tout l'air, Tom. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ?»«
Attends que je réfléchisse. » Tom médita longtemps et finit par dire « Voilà. » Ce numéro 2 a deux entrées, dont l'une donne sur une impasse entre la taverne et la remise d'une briqueterie. Tâche de récolter toutes les clés que tu pourras trouver. Moi, je chipperai toutes celles de ma tante, et la première nuit sans lune, nous essaierons. En attendant, attention à Joël Indien. Tu sais qu'il doit venir au village à cause de ses projets de vengeance. Si tu le vois, suis-le. Et s'il ne va pas au numéro 2 en question, eh ben c'est que c'est pas le bon.
Ça ne me dit rien de le suivre tout seul, dit Huck.
Il fera noir, mon vieux. Peut-être qu'il ne te verra même pas. Et s'il te voit, il ne devinera pas.
S'il fait assez noir, il se peut que j'essaye de le suivre. Je ne garantis rien. Je sais pas. J'essaierai.
T'en fais pas, dit Tom. S'il fait noir, je le suivrai aussi, moi. À part la question de vengeance, il finira bien par s'occuper de l'argent.
Ah, ça c'est sûr, Tom. Oh ben, ma parole, je le suivrai.
À la bonne heure, Huck. Du cran et compte sur moi, s'écria Tom. Chapitre 28. À la découverte. Ce soir-là, Tom et Huck étaient prêts pour la grande aventure. Ils rôdèrent aux abords de l'auberge jusqu'à plus de 9 heures. L'un d'eux surveillait l'impasse, l'autre la porte d'entrée. Personne n'entra par l'impasse, personne ressemblant de près ou de loin aux faux espagnols n'entra dans la taverne, personne n'en sortit par la porte. La nuit s'annonçait claire. Tom rentra chez lui, en comptant que si elle s'assombrissait, Huck viendrait miauler, à la suite de quoi il se glisserait dehors et essaierait les clés. Mais la nuit resta claire, et à minuit environ, Huck mit un terme à sa faction et alla se coucher dans un tonneau à sucre vide. Mardi, même malchance. Mercredi aussi. Mais jeudi s'annonça sous de meilleurs auspices. Tom s'esquiva de bonne heure, ayant sous le bras la vieille lanterne de sa tante et un immense torchon destiné à en dissimuler la lueur. Il cacha la lanterne dans le tonneau qui servait à Huck de chambre à coucher, et les deux amis commencèrent leur faction. À 11 heures, la taverne au rez-de-chaussée de l'auberge ferma ses portes. Les lumières, les seules du quartier, s'éteignirent. Toujours pas de traces de l'espagnol. Personne ne s'était engagé dans l'impasse. La nuit était noire. Le silence n'était interrompu que par de lointains coups de tonnerre. C'était le moment de tenter l'aventure. Tom alla chercher sa lanterne, l'alluma dans le tonneau, l'enveloppa soigneusement de son torchon, et dans l'ombre, les deux enfants reprirent le chemin de la taverne de la tempérance. Huck fit le guet, et Tom pénétra dans l'impasse. Un certain temps s'écoula, que Huck trouva interminable. Pas possible. Tom avait dû s'évanouir. Peut-être était-il mort. Si seulement Huck pouvait apercevoir de temps en temps la lueur de sa lanterne, peut-être aurait-il peur, mais au moins aurait-il la preuve que Tom était encore en vie. Peut-être était-il mort, peut-être, par suite de la terreur ou de l'agitation, avait-il eu une crise cardiaque. Dans son inquiétude, Hugues se rapprochait de plus en plus de l'impasse, s'attendant à chaque instant à une catastrophe. Son cœur battait à se rompre. Tout à coup, il aperçut la lanterne. Et Tom, courant à toutes jambes, passa près de lui. « Barre-toi en vitesse !» cria Tom. Hugues lui emboîta le pas, sans demander son reste, et s'enfuyant à toute allure, les deux gamins ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils eurent atteint le hangar d'un abattoir désaffecté à l'autre extrémité du village. À peine y était-il entré qu'un orage éclata. La pluie tomba à torrents. Dès qu'il eut repris haleine, Toc mit Hugues au courant. « Qu'est-ce que j'ai pris, mon vieux ? J'ai essayé deux clés. J'ai eu beau aller doucement, ça a fait un tel raffut que je n'osais plus remuer. Par-dessus le marché, les clés ne tournaient même pas dans la serrure. Alors, machinalement, j'ai pris le bouton de la porte et la porte s'est ouverte. Elle n'était pas fermée à clé. J'entre à pas de loup. Je découvre ma lanterne. Et
quoi, Tom ?
Je me suis arrêté à temps. Un peu plus, je marchais en plein sur la main de Joël l'Indien. Non. Oui, si, il était là, étendu de toute son long sur le plancher, les bras en croix. Il avait encore son bandeau sur l'œil et il dormait à poing fermé. Alors, qu'est-ce que t'as fait ? Il s'est réveillé ? Non. Il n'a pas bougé. Il devait être sous. J'ai ramassé mon torchon et j'ai filé.
Ah ben moi, j'aurais pas pensé au torchon. Si j'avais perdu, qu'est-ce que ma tante m'aurait passé ?
T'as vu la caisse ? Oh, tu sais, je n'ai fait ni une ni deux. Je n'ai pas pris le temps de regarder. Je n'ai vu ni caisse ni croix. Tout ce que j'ai vu, c'est une bouteille et un gobelet par terre près de Joey. C'est-à-dire non, je me trompe. Il y avait dans la pièce deux tonneaux et une quantité de bouteilles. Comprends-tu maintenant pourquoi on dit que la pièce est hantée ?
Non. Elle est hantée par le whisky, oui. Si toutes les tavernes de soi-disant tempérance, les bistrots sans alcool ont une chambre hantée, tu vois le coup ?
Oh, ce qu'on va chercher tout de même. Mais dis donc, Tom, si Joey est sous, ça serait peut-être le moment de lui faucher sa caisse. T'as envie, toi, d'essayer ? Demanda Tom.
Hugues eut un frisson.
Après tout, non. Je ne te le conseille guère. Pour Joey, une bouteille, c'est pas suffisant. S'il en avait eu trois, il aurait été fin sous et je pouvais y aller.
Après un instant de réflexion, Tom ajouta. Ne faisons plus rien avant d'être d'abord sûr que Joey n'est pas là-dedans. C'est trop dangereux.
En montant la garde toutes les nuits, nous finirons bien par le voir sortir, et alors nous aurons le champ libre.
Entendu, dit Hugues. Je veillerai toute la nuit et toutes les nuits, pourvu que tu te charges du reste.
Ça va, dit Tom. Dès qu'il y aura du nouveau, viens miauler sous ma fenêtre. Si je dors fort, jette du gravier dans mes carreaux, ça me réveillera.
Compris.
Bon, maintenant l'orage est passé, dit Tom. Je rentre. D'ici 2 heures, il fera jour. Jusque-là, tu montes la garde.
J'ai dit que je le ferai, je le ferai. Je la monterai pendant 1 an s'il le faut. Je dormirai le jour et je veillerai la nuit.
Et où est-ce que tu vas dormir ?
Dans la grange de Ben Rogers. Il veut bien, et son vieux noir aussi, tu sais, oncle Jack. Je vais souvent chercher de l'eau pour lui, et en retour, il me donne quelquefois à croûter. C'est un brave type, l'oncle Jack.
Bon, dit Tom, tant que je n'aurai pas besoin de toi dans la journée, je te laisserai dormir. Et toi, il est entendu qu'aussitôt que tu verras quelque chose d'anormal, tu viendras miauler sous ma fenêtre. Chapitre 29. Le pique-nique. Ce vendredi matin, Tom apprit une bonne nouvelle. La famille du juge Thatcher était rentré à Saint-Pétersbourg la veille au soir. Du coup,
Joe et l'Indien et le trésor se virent relégués au second plan de l'actualité, Becky ayant la vedette. Tom la rencontra, entouré de nombreux camarades, et cette entrevue fut le prétexte de toutes sortes de jeux. La journée se termina de la façon la plus heureuse. À force d'importuner sa mère, Becky finit par obtenir que son fameux pique-nique, promis depuis si longtemps et si longtemps différé, serait fixé au lendemain. Elle était ravie, et Tom aussi, bien sûr. Les invitations furent lancées le soir même, et toute la jeunesse du village se consacra aux préparatifs de la fête. Tom était si énervé qu'il ne put s'endormir que très tard. Si seulement Huck pouvait, dans quelques heures, venir miauler sous sa fenêtre, il aurait son trésor à temps pour éblouir Becky et tous ses amis. Espoir déçu, pas de signal cette nuit-là. Le lendemain matin, entre 10 et 11 heures, la jeunesse se trouva rassemblée chez le juge Thatcher et attendait le signal du départ. Selon la coutume, les personnes âgées s'étaient abstenues pour que rien ne portât ombrage à la joie des enfants. On estimait suffisant que leur sauvegarde fût assurée par quelques jeunes filles de 18 à 20 ans et quelques jeunes gens de 20 à 23 ans. Le vieux bac à vapeur avait été frété pour l'occasion. Bientôt, la bande joyeuse, munie de paniers à provisions, se dissémina dans la rue principale du village. Sid était malade, il n'avait donc pu accepter l'invitation. Marie resta à la maison pour lui tenir compagnie. Avant le départ, Madame Thatcher fit ses recommandations à sa fille. « Il est probable que vous rentrerez tard. Le mieux serait peut-être que tu passes la nuit chez l'une ou l'autre de tes amies qui habitent près du débarcadère. »« C'est entendu, maman, » dit Becky. « J'irai chez Suzy Harper. »« Très bien, tâche d'être sage et ne gêne personne. » En chemin, Tom dit à Becky. « Dis donc, voilà ce que nous allons faire. Au lieu d'aller chez Suzy Harper, nous monterons là-haut et nous irons coucher chez Madame Douglas. » D-O-U-G-L-A-S. Elle aura des glaces. Elle en a presque tous les jours, plein sa cuisine, et elle sera enchantée de nous recevoir. C'est cela, dit Becky, ce sera très amusant. Après un instant de réflexion, Becky ajouta. Hé, maman, qu'est-ce qu'elle va dire?
T'en fais pas, dit Tom, elle n'en saura rien.
La conscience de Becky n'était pas tranquille.
Mais ce n'est pas bien de... Mais comment veux-tu que ta mère le sache? Et puis quel mal y a-t-il?
Tout ce qu'elle demande, c'est qu'il ne t'arrive rien. Si elle y avait pensé, c'est ça qu'elle t'aurait dit de faire. J'en suis sûr. Recourir à la fastueuse hospitalité de Madame Douglas, c'était bien tentant. Les scrupules de Becky n'y résistèrent pas. Les deux enfants décidèrent de ne souffler mot à personne du programme de la soirée. Tout à coup, Tom se rappela qu'il était possible que Huck vînt cette nuit même miauler sous sa fenêtre. Cette considération jeta un froid sur le plaisir qu'il se promettait. Que faire ? Renoncer à aller chez Madame Douglas, il n'en avait pas le courage. Et pourquoi y renoncer? Du moment que Huck n'était pas venu la nuit précédente, il n'y avait aucune raison pour qu'il vînt cette nuit-là plutôt qu'une autre. D'un côté, la certitude d'une soirée agréable, de l'autre côté, la vague possibilité d'une chasse au trésor. Avec la légèreté de son âge, Tom décida de faire ce qu'il aimait le mieux. De la journée, il ne penserait plus à la caisse. À 5 kilomètres en aval du village, le bac débarqua ses passagers dans une crique entourée de bois. Peu après, des rires et des cris de joie réveillèrent les échos des alentours. Les uns jouèrent, les autres partirent en promenade. Un appétit féroce finit par rassembler tout le monde et les provisions furent vite consommées. Le repas terminé, les convives se reposèrent à l'ombre de grands arbres. Puis quelqu'un demanda « Qui veut aller visiter la grotte ?» Tous et toutes voulurent y aller. On distribua des chandelles et les enfants escaladèrent la colline. À flanc de coteau, l'entrée de la grotte, en forme d'A majuscule, était commandée par une porte en chêne massif. La porte était ouverte. Elle donnait accès à une sorte de vestibule de petite dimension, froid comme une glacière, et garni sur ses parois d'une sorte de calcaire humide. Entre la vallée ensoleillée et les ténèbres de l'intérieur, le contraste était saisissant. Mais l'intérêt de ce spectacle fut vite épuisé.
la troupe reprit ses ébats. Un garçon alluma une chandelle. Toute la troupe se rua sur lui. Il eut beau opposer une résistance héroïque, sa chandelle fut bientôt éteinte. Nouveau rire, nouvelle poursuite, un autre recommença et subit le même sort. Mais tout a une fin. Et peu après, les visiteurs descendirent le long de la principale voie d'accès aux profondeurs. La lueur des chandelles n'en éclairait que faiblement les parois, qui se rejoignaient à une hauteur de 20 mètres. Le passage n'avait guère plus de 3 mètres de large. De distance en distance, d'étroits couloirs bifurquaient à droite et à gauche. La grotte était en somme un vaste labyrinthe d'allées tortueuses qui se croisaient et se recroisaient en tous sens sans mener nulle part. On prétendait qu'il était possible d'y errer pendant des jours et des nuits sans en trouver la fin. Au fur et à mesure que l'on descendait, on trouvait un second labyrinthe sous le premier et ainsi de suite. Personne ne pouvait se vanter de connaître à fond la grotte, c'était matériellement impossible. La plupart des jeunes gens en connaissaient une partie, au-delà de laquelle on disait qu'il était risqué de s'aventurer. Tom y avait pénétré aussi loin que quiconque. Les promeneurs s'égaillèrent sur plus d'un kilomètre de long. Des troupes ayant pris des allées latérales se retrouvèrent au carrefour. D'autres réussirent à éviter toute rencontre pendant plus d'une demi-heure sans dépasser les limites du terrain déjà exploré. De temps en temps, des invités regagnaient l'entrée de la grotte, couverte de taches de chandelles et barbouillée de terre glaise de la tête aux pieds, essoufflés, fatigués, ravis. Ils s'aperçurent avec stupeur que personne ne s'était inquiété de l'heure et que la nuit était sur le point de tomber. La cloche du bac appelait depuis une demi-heure. Mais cette journée de fête se terminait à la satisfaction de tous, et quand le bac, passagers à bord, eut quitté la rive, personne, sauf le capitaine, ne s'alarma de ce retard. Quand le bac éclairé passa l'appontement sans s'y arrêter, Huck était déjà à son poste. Il n'entendit aucun bruit à bord, car les jeunes gens, morts de fatigue, tombaient de sommeil. Il se demanda quel service faisait le bac et pourquoi il ne s'était pas arrêté à l'appontement. Puis son attention se reporta sur sa mission. La nuit devenait de plus en plus sombre. Des nuages s'amoncelaient. 10 heures sonnèrent. Les bruits s'apaisèrent, les lumières s'éteignirent, les derniers passants rentrèrent chez eux, le village s'endormit et Huck resta seul avec le silence et les fantômes. 11 heures. Les lumières de la taverne s'éteignirent à leur tour. L'obscurité devint générale. Huck continua à veiller. Il ne se passait rien. Le temps lui sembla long. Il commença à se demander si ce qu'il faisait servait à quelque chose. Pourquoi n'irait-il pas se coucher? Soudain, un léger bruit parvint à son oreille. Instantanément, Huck fut sur le qui-vive. Quelqu'un avait ouvert la porte de l'auberge donnant sur l'impasse. Elle se refermait doucement. Huck courut jusqu'au coin de la briqueterie. Une seconde plus tard, 2 individus passèrent tout près de lui à le frôler. L'un d'eux avait quelque chose sous le bras. La caisse. Alors ils emportaient le trésor. Fallait-il prévenir Tom sur le champ? Non, ce serait absurde. Les hommes disparaîtraient avec le trésor et on ne les retrouverait plus. Il fallait les prendre en filature. La nuit noire rendait la chose facile. Tout en monologuant ainsi, Huck se laissa glisser hors de sa cachette et pieds nus, avec des précautions de chat, il emboîta le pas aux 2 noctambules en maintenant entre eux et lui une distance prudente. Ils commencèrent par se diriger vers le fleuve, puis tournèrent à gauche dans une petite rue transversale jusqu'à un sentier menant à la colline de Cardiff Hill. Ils prirent ce sentier, passèrent sans hésitation le long d'une maison habitée par un vieux Gallois, à mi-chemin du sommet, et continuèrent à monter. « Bon, se dit Huck, ils vont cacher la caisse dans la carrière. » Mais au lieu de s'y arrêter, ils poursuivirent leur route, gagnèrent le haut de la colline et disparurent dans un taillis. Huck ne courait plus aucun danger à se rapprocher d'eux. Il pressa le pas, puis ralentit l'allure. N'était-il pas allé trop vite? Il avança un peu, s'arrêta, écouta, pas d'autre bruit que celui des battements de son cœur. Dans le lointain, une chouette ulula. Sinistre présage, mais aucun bruit de pas. Tout était-il perdu? Huck était sur le point de continuer quand il entendit tousser à un mètre de lui. Son cœur faisait dans sa poitrine des bonds désordonnés. Il trembla comme s'il avait plusieurs accès de fièvre à la fois, se sentant si faible qu'il allait tomber. Il savait où il était. Il savait qu'à 5 pas de lui, il y avait une petite barrière donnant accès à la propriété de Madame Douglas. « C'est parfait, pensa-t-il, qu'ils enfouissent leur trésor ici. Il ne sera pas difficile à retrouver. » Une voix sourde s'éleva, celle de Joël l'Indien.
« Sacrée bonne femme, dit-il, il y a du monde chez elle. Les fenêtres sont éclairées. »«
Moi, je vois rien, dit l'autre. » Cette seconde voix était celle de l'inconnu de la maison hantée. Huck eut un frisson. Si Joël était venu là, c'était pour mettre à exécution ses projets de vengeance. La première idée de Huck fut de s'enfuir. Puis il lui revint en mémoire que Madame Douglas avait été plus d'une fois très bonne pour lui. Peut-être ces hommes allaient-ils la tuer? Oserait-il l'avertir? Non, il risquerait de se faire prendre. Toutes ces pensées lui passèrent par la tête entre la remarque de l'inconnu et celle qui allait suivre de Joël l'Indien.
« Si tu ne vois rien, dit celui-ci, c'est parce que le buisson t'en empêche. Regarde par ici. Vois-tu maintenant?
Oui, en effet, il doit y avoir du monde. Nous ferions mieux d'y renoncer.
Y renoncer au moment où je me dispose à quitter définitivement le pays? Y renoncer alors que c'est peut-être ma dernière chance? Je te l'ai dit et je te le répète, ce n'est pas pour ce qu'on pourra trouver chez elle, ça je te le laisse. Mais son juge de paix de mari m'a rendu la vie dure bien des fois. Il m'a fait condamner pour vagabondage. Et ce n'est pas tout. Il m'a fait fouetter devant la porte de la prison comme un esclave et au vu et su de toute la ville. Fouetter, moi, tu entends? Il est mort avant que je puisse me venger. Mais c'est sur elle que je me vengerai.
On ne la tue pas. Tu ne vas pas faire ça.
La tuer? Qui te parle de la tuer? Oui, je la tuerais, lui, s'il était là. Mais elle, pas. Pour se venger d'une femme. On ne la tue pas. On la défigure. On lui fend les narines. On lui coupe les oreilles.
Mais mon Dieu, c'est épouvantable.
Garde tes réflexions pour toi, ça vaudra mieux. Je l'attacherai à son lit. Si elle meurt à force de saigner, tant pis après tout. Si ça lui arrive, je ne verserai pas une larme. Tu vas m'aider. Tu es là pour ça. Seul, je n'y arriverai pas. Si tu bronches, je te fais ton affaire à toi aussi, tu comprends? Et si je te tue, je la tue. Comme ça, personne ne saura qui a fait le coup.
S'il le faut absolument, allons-y tout de suite, dit l'inconnu. Le plus tôt sera le mieux. J'en suis malade.
Maintenant, avec tout ce monde, tu n'es pas fou? Si tu continues comme ça, je vais finir par me méfier de toi. Nous attendrons qu'il soit parti. Nous ne sommes pas pressés.
Huck eut l'impression qu'un silence allait s'en suivre, un silence plus macabre encore que cette conversation. Retenant son haleine, il recula prudemment, ne posant fermement le pied qu'après avoir tâté le terrain, risquant maintes fois de tomber tant d'un côté que de l'autre. Chaque pas en arrière était l'objet de la même précaution. Une souche craqua sous son poids. Il s'arrêta, retint de nouveau son souffle et écouta. Aucun bruit. Rien ne bougeait. Il fit demi-tour entre les haies, manœuvrant avec autant de précision que s'il eût été un bateau, puis refit en sens inverse le chemin qu'il venait de parcourir. Parvenu à la carrière où il était en sûreté, il ne fit qu'un bond jusqu'à la maison du vieux Gallois. Il frappa à la porte. Les têtes du vieux et de ses deux fils, deux gars bien bâtis, apparurent à la fenêtre.
« Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui frappe à cette heure-ci? Qu'est-ce que vous voulez ?»«
Ouvrez-moi vite, j'ai quelque chose à vous dire. »«
Mais qui êtes-vous ?»«
Huckleberry Finn, ouvrez vite. »«
Huckleberry Finn? D'ordinaire, ce n'est pas un nom qui fait ouvrir les portes. Enfin, faites-le entrer, les gars, et voyons ce qu'il veut. »
Huck haletait. Ne dites jamais que c'est moi qui vous ai dit ça. Ne le dites pas, il me tuerait. Mais Madame Douglas a été souvent si bonne pour moi qu'il faut que je vous dise. Je vous le dirai si vous promettez de ne pas le dire, que c'est moi qui vous l'ai dit.
Pour qu'il soit mis dans cet état, dit le vieux, il faut qu'il y ait quelque chose là-dessous. Parle, personne ne dira rien, tu peux en être sûr.
3 minutes après, le vieux et ses fils armés jusqu'aux dents grimpaient la colline et gagnaient le sentier sur la pointe des pieds. Huck n'alla pas plus loin. Caché derrière un arbre, il écouta. Après un moment de silence angoissant, Une détonation, puis un cri se firent entendre. Huck n'en demanda pas davantage. Il dévala la colline aussi vite que ses jambes pouvaient le porter. Fin de la première face de la 8e cassette, Les aventures de Tom Sawyer, par Mark Twain, page 213.